et c'est le journal d'Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un autre monde est possible, c'est la conviction du cinéaste engagé Ken Loach, Palme d'Or à Cannes. Nous reviendrons sur ce choix politique et polémique du jury avec notre spécialiste Antoine Guillot.
Un autre pouvoir est possible aussi en Autriche. Le pays attend aujourd'hui de savoir si son prochain président sera le candidat de l'extrême droite. Ce matin, le décompte est plus serré que prévu, nous dira notre envoyé spécial Ludovic Piétenu.
Une autre vision de l'humanitaire est-elle possible? C'est l'enjeu du sommet inédit qui s'ouvre aujourd'hui à Istanbul sous le parrainage de l'ONU.
Et une autre politique est possible, c'est la conviction des opposants à la loi travail qui bloque de plus en plus de dépôts de carburant en France.
Une autre politique, c'est aussi la question que nous posons tout au long de ces matins en direct du journal La Croix, à un an de la présidentielle, comment redonner un désir de politique ? Une palme d'or très engagée. C'est donc le Britannique Ken Loach qui a été consacré hier à l'issue de la quinzaine pour son film « Moi, Daniel Blake », un nouveau réquisitoire contre les injustices sociales. Bonjour Antoine Guillot.
Bonjour Amélie.
Vous avez suivi tout le festival de Cannes pour France Culture. Ken Loach couronné une deuxième fois sur la croisette. Sa première palme d'or, c'était en 2006 pour « Le vent se lève ». Un réalisateur connu avant tout pour son cinéma de protestation, c'est son expression.
Oui, Ken Loach, c'est le cinéaste politique par excellence, pour ne pas dire militant, tant dans ses prises de position publiques marquées à l'extrême gauche que dans son cinéma de combat. Il se situe résolument du côté des miséreux, des dominés et de ceux qui luttent contre le système, souvent avec talent, parfois sans trop de subtilité, tant le didactisme et l'instrumentalisation de ses personnages ne sont jamais loin chez lui. C'est le cas de Moi, Daniel Blake, un de ses moins bons films qui lui vaut pourtant sa seconde palme d'or, 10 ans tout juste, vous l'avez dit. Après Le vent se lève, le film raconte un calvaire, celui d'un brave gars et excellent menuisier, le cœur sur la main, que des problèmes cardiaques, justement, plongent dans l'enfer administratif de l'aide sociale britannique. On ne peut qu'approuver cette dénonciation de l'attitude délibérément cruelle, selon Loach, consistant à maintenir les gens dans la pauvreté et à les culpabiliser pour cela. Malheureusement, ce film édifiant est d'une telle faiblesse dans ses moyens, tant scénaristiques que de mise en scène, si grossier dans la construction univoque de ses personnages, qu'on ne voit comme explication à cette inattendue palme d'or que celle d'un jury désuni qui, comme cela arrive trop souvent, s'est rassemblé sur le plus petit dénominateur commun, un humanisme confortable mais sans beaucoup de cinéma.
Et on l'a entendu, vous êtes assez critique vis-à-vis de cette palme d'or et vous n'êtes pas le seul, Antoine Guillot.
Et oui, avec raison. Contrairement à l'an dernier, la compétition cannoise était de très bonne qualité et la plupart des observateurs restent pantois devant l'aveuglement du jury qui l'a conduit à ignorer quasiment tout ce qu'il y avait de mieux. S'il voulait primer l'esprit de résistance face à l'ultralibéralisme, mais aussi l'invention cinématographique, il aurait pu le faire avec les excellents Tony Erdmann de l'allemande Maren Hadet ou Aquarius du brésilien Kleber Mendoza Filho, des films réjouissants mais sans doute trop subtils. Des dynamitages, des logiques du marché. Il y avait aussi le poétique Pas de côté de Jim Jarmusch, Patterson, et le jubilatoire et très subversif Elle de Paul Verhoeven. Pour paraphraser Ken Loach, un autre palmarès était possible.
Voilà pour la palme d'or. Que doit-on retenir des autres choix du jury 2016, Antoine?
Écoutez, le prix de la mise en scène décerné ex aequo avec Olivia Assayas à Christian Mounjou pour Baccalauréat et celui d'interprétation féminine pour Jacqueline Rosé dans Ma Rosa de Brillante Mendoza sont très mérités, mais on espère juste que c'est pour leur mérite propre et pas seulement pour leur dénonciation de la corruption dans leurs pays respectifs, la Roumanie et les Philippines. Quant au reste, Xavier Dolan, Andrea Arnold, Asghar Farhadi et son comédien, poussés de jeunisme et bien-pensance politique, auront manifestement fait leur œuvre.
Antoine Guillot, merci beaucoup, spécialiste du cinéma sur France Culture. Un autre monde est possible et même nécessaire, a donc martelé hier Ken Loach, après avoir mis en garde contre le retour de l'extrême droite, là aussi furieusement d'actualité. En Autriche, on ne sait pas encore ce matin si le candidat nationaliste Norbert Hofer sera le premier représentant de l'extrême droite à décrocher la présidence d'un État européen. Il est ce matin au coude à coude avec son adversaire, l'écologiste Alexander Van der Bellen. Pour connaître le résultat du second tour de la présidentielle, il va falloir attendre aujourd'hui le décompte des votes par correspondance. Ludovic Piétenu, vous êtes à Vienne, bonjour.
Bonjour Amélie.
Alors l'extrême droite était donnée plus tôt en tête, finalement on est davantage sur du 50-50 ce matin, Ludovic?
Oui, c'est vrai que la dynamique électorale était en faveur de l'extrême droite après le premier tour il y a un mois, 36%, souvenez-vous, pour le FPE, un score historique pour ce parti d'extrême droite. Le second qualifié, les Verts, était 15 points derrière à 21%. Les deux grands partis traditionnels à terre, laminés, 11% chacun, d'où cette extrême droite donnée favori. Sauf qu'hier, son candidat Norbert Hofer n'a pas plié le match, il n'a pas écrasé son adversaire écologiste Alexander Van der Bellen. D'ailleurs, QG des Verts où je me trouvais hier soir, plusieurs Autrichiens avec qui j'échangeais s'étonnaient de ce score. Ils retrouvaient même un semblant d'espoir, c'est dire. Mais quelques heures, quelques jours avant, ils pensaient vraiment prendre le chemin d'une cuisante défaite. Alors que s'est-il passé? Peut-on parler de sursaut? Peut-on évoquer un réflexe républicain comme on en a connu en France? Les électeurs des partis traditionnels à gauche et à droite ont, c'est vrai, reporté leur voix. Pas tous, mais en nombre suffisant en tout cas pour accrocher le Parti de la Liberté. Un FPE qui a quand même Amélie Levent en poupe. Ses scores à la campagne sont impressionnants, souvent jusqu'à 70-80%, ce que ne réalise jamais, même dans le cœur des villes, le candidat écologiste qui monte péniblement à 60-65% pour ses meilleurs scores. Quand on regarde une carte ce matin de l'Autriche, elle est bleue et cela relativise sérieusement et met à mal cette théorie du réflexe républicain.
Ludovic Piétonu, merci beaucoup. En direct ce matin de Vienne, en Autriche. Parmi les faits marquants de la campagne, l'arrivée massive de migrants ces derniers mois a lourdement pesé sur le vote des Autrichiens et le flux ne semble pas se tarir. Hier, les gardes-côtes libyens ont annoncé avoir intercepté 7 embarcations avec environ 850 migrants à bord. Mieux répondre aux crises humanitaires, celle des migrants en est une. C'est tout l'enjeu du sommet inédit qui s'ouvre aujourd'hui à Istanbul. Près de 6000 dirigeants et membres d'ONG du monde entier sont attendus en Turquie sous l'égide de l'ONU pour repenser le système humanitaire à bout de souffle, selon ses acteurs. Mais un sommet pourra-t-il venir à bout d'une telle mission? Des éléments de réponse avec Valérie Crovin.
Le sommet d'Istanbul est le fruit d'un long processus de réflexion initié en 2012 par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Il a été précédé de 8 consultations régionales menées en Afrique et en Asie. Plus de 22 000 personnes ont été mises à contribution, des bénéficiaires de l'aide humanitaire, des ONG internationales mais aussi nationales et locales, des organisations gouvernementales ainsi que des acteurs privés. De ces consultations ont été tirés 2 documents de travail, dont un rapport spécial sur le financement humanitaire, le nerf de la guerre. C'est aussi un sujet de controverse entre les différents acteurs. Certains demandent aux bailleurs de fonds et aux Nations Unies de revoir leurs instruments d'évaluation des besoins pour améliorer l'efficacité de l'aide. 7 thèmes ont été retenus et feront l'objet de tables rondes avec des intitulés qui laissent parfois songeurs, comme faire preuve de volonté politique pour prévenir et faire cesser les conflits ou encore faire respecter les normes qui protègent l'humanité, un programme trop ambitieux et surtout trop flou pour les plus sceptiques qui voient dans ce sommet une montagne qui risque bien d'accoucher d'une souris.
Et l'on estime aujourd'hui à 60 millions le nombre de déplacés sur la planète et à 125 millions le nombre de personnes ayant besoin d'assistance dans le monde. La mort du chef des talibans semble se confirmer. Pour preuve, le conseil dirigeant de l'insurrection afghane s'est réuni hier pour évoquer la succession à la tête du groupe. Le chef de l'exécutif afghan a également annoncé la mort du mollah Akhtar Mansour. Il a été la cible de drones américains dans le sud-ouest du Pakistan. Et puis il y a quelques instants, c'est le président américain Barack Obama lui-même qui confirme donc la mort du mollah Mansour. Barack Obama en tournée actuellement en Asie. Une visite historique, mais pas question de repentance. Plus de 70 ans après le bombardement nucléaire d'Hiroshima, le président Barack Obama doit se rendre au Japon cette semaine et il prévient ce matin dans un entretien à la chaîne publique Nippon NHK. Il ne prononcera pas d'excuses à cette occasion. Le chef de l'État américain doit se rendre à Hiroshima le 27, c'est vendredi, là où la bombe atomique a tué 140 000 habitants. 74 000 personnes périront ensuite à Nagasaki, provoquant la capitulation du Japon 3 jours plus tard et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Visite hautement symbolique, donc hautement stratégique aussi. Obama débute sa tournée asiatique au Vietnam. Aujourd'hui, nous avons demandé au politologue américain Dick Howard la portée d'un tel voyage.
Je pense que l'objectif, en termes tout simples, c'est de faire un contrebalancement du pouvoir chinois qui s'étend de plus en plus dans ce que la Chine appelle la mer de Chine. Il y a aussi une dimension militaire qui devient de plus en plus évidente et de plus en plus nécessaire. Il y a eu plusieurs confrontations d'avions qui se croisent à 50 mètres l'un de l'autre, etc. Et puis ce qui m'a le plus frappé, en fait, quand il y a eu l'annonce de cette visite, il y avait une photo de la grande baie de Cam Ranh au Vietnam. Et je me souviens de cette baie et de ses installations militaires. La première fois que je les ai vues, c'était c'était, je crois, en 64 ou 65, au moment où les États-Unis sont engagés dans la guerre du Vietnam. Et je me souviens de m'être dit à ce moment-là, oh là là, si on perd ça, qu'est-ce que ça va devenir? Maintenant, on a perdu la guerre, c'est devenu, entre guillemets, communiste, si l'on veut, et maintenant, ça va devenir de nouveau les alliés des États-Unis.
Le politologue américain Dick Howard, il répondait à Nadine Epstein.
8h10, la suite du journal sur France Culture, Amélie Perrier, avec cette question ce matin, la France doit-elle se préparer à des pénuries de carburant?
Et dernière cible des militants CGT, le dépôt de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône. Plusieurs centaines d'entre eux bloquent le site depuis cette nuit. Cela s'ajoute aux barrages érigés devant des dépôts dans le nord et l'ouest de la France. Certaines stations-service commencent à être à court. D'où la réponse ferme hier du gouvernement. Manuel Valls a promis de faire lever les blocages dès aujourd'hui. En tout cas, la CGT semble tenir un cap, celui d'un discours de plus en plus radical. Raphaël Ebenstein.
Le geste était symbolique, déjà annonciateur de la rupture. Philippe Martinez avait boycotté la conférence sociale présidée par François Hollande en octobre dernier dans le contexte de l'affaire de la chemise à Air France et des propos de Manuel Valls fustigeant des syndicalistes aux méthodes de voyous. Et c'est peu dire que les choses ne se sont pas arrangées depuis. Poussé par une base radicalisée contre un gouvernement de gauche qu'elle accuse de traîtrise, Philippe Martinez a été réélu sur cette ligne dure lors du récent congrès de la CGT à Marseille, en plein mouvement contre le projet de loi El Khomri et avec des huées de la salle contre la délégation présente de la CFDT. L'heure n'est donc plus au syndicalisme rassemblé, prôné en 2013, et à une forme de relative modération. Ce retour aux fondamentaux de la CGT sera-t-il payant? La mobilisation est pour l'instant jugée réussie dans le secteur pétrolier, mais les actions des routiers ont été plutôt limitées. Il y a eu moins de 15% de grévistes la semaine dernière à la SNCF, d'où l'appel lancé aux salariés de la construction pour qu'ils embrayent à partir de jeudi avant ceux du commerce, même si le blocage de l'économie reste pour l'instant davantage un slogan qu'une réalité.
Najat Vallaud-Belkacem, bonjour. Vous êtes l'invité des Matins de France Culture. Comment vous interprétez cette radicalisation du discours syndical aujourd'hui?
D'abord, je pense qu'elle dépasse largement la loi travail. On l'a constaté depuis plusieurs années, je crois qu'il y a en effet une radicalisation qui appelle sans doute à penser aussi, à repenser nos propres réponses et la façon dont on gouverne, la façon dont on adopte les textes. Il y a quelque chose à faire aujourd'hui pour recréer du compromis. Je crois que sur la loi travail, par exemple, c'est ce qui a été fait par le gouvernement dans un second temps. Le Premier ministre reconnaissait lui-même que... on aurait peut-être dû le faire dès le début, mais en tout cas que cette notion de compromis, elle est plus que jamais d'actualité.
Mais cette loi de travail, elle stigmatise quand même un problème de radicalisation. Vous pensez que le gouvernement a touché à quelque chose qu'il ne fallait pas toucher à gauche ?
Donc, comme je vous le disais, cette radicalisation, on l'avait connue, par exemple, les sujets ne sont absolument pas comparables, hein, mais au moment de l'adoption de la loi sur le mariage pour tous, on avait bien vu déjà des gens
qui...
Mais
pas la gauche.
Mais c'est pas comparable, ouais. C'est bien ce que je dis, mais enfin, cette idée qu'il y ait des gens qui, y compris lorsque la loi est adoptée, lorsque les arbitrages ont été rendus, continuent à contester le contenu des textes, c'est en effet quelque chose qui est assez nouveau, mais qui date de quelques années, donc, et qui doit nous interroger sur la légitimité aujourd'hui de la loi, la légitimité de l'action publique. Comment faire pour lui redonner de la légitimité, pour qu'elle ne soit plus contestée? Je pense qu'au fond, ça fait partie de tous ces changements à l'œuvre, avec une fragmentation de la société, une individualisation, un niveau d'information et en même temps de désinformation qui est de plus en plus élevé. Une impression parfois de comprendre et d'appréhender les enjeux des sujets en question sans véritablement les appréhender et les comprendre. Je pense que c'est ce qu'on va évoquer tout au long de cette matinée, mais pour l'instant, on est dans cet entre-deux très insatisfaisant où on est encore sur un ancien système, mais on a une situation et un contexte qui nous incite en effet à passer à autre chose.
Et le gouvernement est prêt à prendre le risque de rester ferme sur cette loi qui apparemment quand même ne passe pas à gauche jusqu'à la présidentielle, quitte à perdre vraiment une partie de son électorat ?
Bon, d'abord, il faut quand même relativiser. Hein. Je pense que là, ce que vous venez d'évoquer, ce sont des militants radicalisés appartenant à certaines organisations syndicales. La loi, elle est soutenue, par exemple, par un certain nombre d'autres organisations syndicales dont on parle beaucoup plus rarement, comme d'habitude.
Donc, ils sont minoritaires, Nuit Debout, ces militants CGT
Indéniablement, les radicalisés et les casseurs sont minoritaires. Enfin, en tout cas, il faut l'espérer, mais je vous le confirme. Donc oui, il faut relativiser les choses. Et oui, évidemment que cette loi doit être adoptée, finalisée et qu'on doit... Mais pour la suite, je pense en effet qu'il faut revoir sans doute nos modes de gouvernance plus généraux.
Najat Vallaud-Belkacem, merci beaucoup, ministre de l'Éducation nationale. La suite de votre entretien dans les matins de France Culture avec Guillaume Erner, notamment après ce journal. Alors, justement, on l'évoquait, la contestation contre la loi El Khomri, c'est un exemple supplémentaire du bouleversement profond du paysage politique français. Et à un an de l'élection présidentielle, France Culture a choisi, donc, avec le journal La Croix, de s'interroger sur la manière de réinventer la politique. Comment retrouver un désir de politique ? Direction, dans cette édition, le Conseil régional des Hauts-de-France, où il y a 5 mois, au lendemain des élections, Xavier Bertrand du Parti Les Républicains s'était engagé à tenir compte du fait qu'il avait été élu avec les voix de la gauche pour faire barrage au Front National et à faire de la politique autrement. Alors qu'en est-il de cette promesse ? Des éléments de réponse avec ce reportage de Stéphane Robert.
Il n'y a plus d'élus socialistes face à Xavier Bertrand au Conseil régional des Hauts-de-France, anciennement Nord-Pas-de-Calais-Picardie. La seule opposition est représentée par le Front National, avec qui les relations sont...
Et nous, on n'est que des niaqués, c'est ça ?
Très tendues.
Pardon ?
C'est ce que vous me dites.
Non, j'ai pas compris, monsieur, si vous voulez bien répéter.
Vous me disiez que vous, vous connaissez tout, et nous, on n'est que des niaqués. Vous savez ce que ça veut dire, niaqués ? Ben, vous irez voir.
C'est intéressant. Intéressant.
Alors, au-delà des invectives avec le FN, de l'autre côté, Xavier Bertrand s'était engagé au mois de janvier à mener une politique complémentaire à celle du gouvernement, dans l'intérêt général.
J'ai vu le Premier ministre, j'ai eu la ministre du Travail au téléphone. Elle avait la crainte que certaines régions, comme l'État, les donnait plus, que certaines régions donnent moins. Ça ne sera pas le cas en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et sur tous ces sujets, je pense que si les uns et les autres font un peu plus ensemble, là, mon sang, on devrait quand même avoir de vrais résultats.
Une politique de droite en partenariat avec des politiques de gauche pour faire avancer la région. C'est dans cet esprit que Xavier Bertrand a fait installer un numéro de téléphone régional intitulé « Proche emploi » pour aider les chômeurs à retrouver du travail et qui fonctionne en complément de ce que fait déjà Pôle emploi. La région finance aussi une partie des charges sociales des PME pour toute nouvelle embauche, là encore en complément de ce que fait déjà l'État. Alors difficile pour le moment de tirer un premier bilan sur le fond, mais c'est aussi sur la forme que Xavier Bertrand s'était engagé à faire de la politique autrement, en associant l'opposition de gauche, même si elle n'a pas d'élu, aux grandes décisions. Et de fait, c'est ce qu'il fait, avec notamment son ancien rival socialiste, Pierre de Saint-Aignan.
J'ai des rencontres fréquentes avec Xavier Bertrand et on évoque les grands dossiers de la région. Là, par exemple, mercredi prochain, je rencontre Bertrand entouré de 5 personnes sur le budget, puisque en juin, c'est le vote du budget pour la région, donc c'est le premier grand rendez-vous pour la région. Eh bien, on va passer une matinée ensemble à regarder avec lui ce que sont les enjeux de son budget. Donc oui, Xavier Bertrand reste un homme de droite, je reste un homme de gauche, mais nous sommes au service de l'intérêt général, mais le dialogue existe.
Reste désormais à savoir si cette manière de faire portera ses fruits. En attendant, après avoir démissionné de ses mandats de maire et de député, Xavier Bertrand semble pour l'heure tenir l'essentiel de ses engagements.
Stéphane Robert, on termine par le temps de ce lundi. Ce sera gris et pluvieux, sauf près de la Méditerranée. Les températures 6 à 10 degrés en général ce matin. Cet après-midi, on prévoit 15 à Strasbourg, 16 degrés à Lyon, 17 degrés ici à Montrouge, à la rédaction de La Croix, 18 à Bordeaux, 19 à Marseille et 20 degrés à Perpignan.